franceinter.fr.
Bonjour, guten Morgen. Un salut en allemand ce matin, puisque nous vous proposons une émission spéciale. Elle a été conçue et fabriquée par une équipe binationale. Dans l'esprit du prix du journalisme franco-allemand qui est décerné chaque année, des reporters de Radio France et des radios publiques allemandes se sont associés pour un regard croisé sur quelques-uns des grands débats en cours dans nos deux pays. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes exactement à mi-chemin entre les grands rendez-vous politiques de part et d'autre du Rhin. En France, nous avons eu l'élection présidentielle en mai. En Allemagne, les élections législatives se dérouleront le 24 septembre. Le principe de cette émission est donc simple. Des reporters de Radio France sont allés enquêter en Allemagne et des confrères allemands ont fait de même sur le sol français. Parmi les grands thèmes communs, commençons par le plus actuel qui est aussi le plus dramatique, comme nous le montre chaque jour la Méditerranée, c'est l'immigration. En France, Burkhard Birke de Deutschland Radio s'est rendu sur la frontière franco-italienne à Menton, le principal point d'entrée des migrants dans notre pays. En Allemagne, Jan Gallick nous amène dans l'ouest, à Alpen, une toute petite ville dont la population contribue activement à un accueil exemplaire des réfugiés.
Interception, le magazine de la rédaction.
Also, wir sind hier, um euch zu helfen, in Deutschland anzukommen.
Nous sommes dans un centre d'hébergement pour les réfugiés, un petit immeuble de briques rouges flambant neuf, dont la construction a été entièrement financée par la municipalité d'Alpen. Aujourd'hui, une trentaine de personnes sont réunies ici, des bénévoles et quelques salariés d'une grande entreprise spécialisée dans les réseaux informatiques et les télécommunications. Ils organisent un atelier pour aider les migrants à trouver du travail, une étape essentielle pour essayer de s'intégrer dans la société allemande.
Je m'appelle Roman. J'ai 23 ans, je viens d'Afghanistan. Pour l'instant, je n'ai pas de travail. Mais je touche 300 euros par mois d'aide sociale. Grâce à cet argent, je peux me préparer à une nouvelle vie. J'aimerais faire une formation en Allemagne pour devenir informaticien.
Stefan Dormann travaille pour l'entreprise Cisco. Il anime cet atelier pour les réfugiés.
Amazon a installé ici son centre logistique. Des réfugiés y travaillent. Nous les avons formés à cette spécialité. Il y a aussi d'autres entreprises où les réfugiés se sont présentés avec de grandes chances d'être embauchés. En Allemagne, nous avons aussi un gros problème de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'informatique. Et les réfugiés ont donc de bonnes perspectives professionnelles. Pour eux, c'est une belle opportunité de s'établir ici.
Je suis française. Je m'occupe des gens nécessiteux comme les réfugiés politiques.
Donc là, nous sommes dans l'un des appartements de ce centre d'hébergement pour les réfugiés. Donc il y a une petite chambre avec deux lits.
Pour Salah et Hassan. Hassan travaille soit le matin, soit l'après-midi. C'est que tu travailles ?
DHL. Donc tu bosses là.
Il travaille dans un centre de distribution de colis à la poste. Ces réfugiés qui sont à Alpes n'ont pas le droit, avec leur droit d'asile, n'ont pas le droit de quitter Alpes. Il faut qu'ils restent. Et comme il n'y a pas de logement, la mairie est obligée de faire des immeubles.
Thomas Hals, vous êtes le maire d'Alpen. Vous faites partie de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Combien de réfugiés accueillez-vous actuellement à Alpen ?
L'année dernière, nous avons accueilli plus de 300 réfugiés. C'est beaucoup pour une petite commune comme Alpen qui compte 12 000 habitants. Mais ça s'est bien passé avec notre système d'aide aux réfugiés. Au début, nous avons loué beaucoup de maisons pour les migrants. Puis nous avons très vite racheté un gymnase qui était à vendre. Nous l'avons aménagé pour en faire notre premier centre d'accueil.
Est-ce que vous avez investi beaucoup d'argent dans l'accueil des réfugiés?
La commune a investi 2 millions d'euros pour construire un nouveau centre d'hébergement. Les aménagements que nous avons faits dans le gymnase ont également coûté très cher. Environ 100 000 euros par an pour financer la protection contre les incendies. Ce sont de grosses dépenses, mais je crois que ça en valait la peine.
Même si les dépenses assumées par la commune suscitent certaines critiques dans la population, la plupart des réfugiés peuvent s'intégrer grâce au dévouement d'une centaine de bénévoles, comme ce couple de musiciens Patrick et Judy. Des bénévoles conscients malgré tout de la montée du populisme dans leur pays, symbolisé par le succès du parti Alternative für Deutschland.
Ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu ce genre de mouvement. Mais avec Alternative für Deutschland, ces questions sont aujourd'hui au centre de la société. Les uns disent « c'est notre nouvelle Allemagne, celle de la diversité ». Et les autres disent « non, ce n'est pas ça du tout l'Allemagne. Notre société est profondément divisée ».
Hallo. Wie geht's?
Gut. Und dir?
Gut. Sehr gut.
Habt ihr was?
Vous avez donc écrit une chanson de Judy avec les réfugiés qui s'appelle Home.
Dieses Lied ist auf jeden Fall wichtig für mich. Es ist ein Lied, das ich jetzt oft singe. Habe schon mit unseren Flüchtlingen und anderen Leuten im Dorf gesungen. Und wie wichtig ist es? Made it to my horizon, cross the border to survival. My arrival wasn't all I thought it'd be. Need somewhere to settle down, to readjust my dreams for now, to lay my head so I can be at ease.
Menton, une station balnéaire idyllique dans les Alpes-Maritimes. Quelle est la préoccupation principale des gens ici?
Bah, déjà, le problème, c'est l'immigration ici, comme nous sommes un pays frontalier, c'est l'immigration.
Je pense que les choses changent et pas spécialement en bien. Je pense que tout est dû à tous ces réfugiés qui essaient de passer la frontière et les gens en ont marre.
L'immigration, ils ne le calculent pas en chiffres, mais je pense que c'est quelque chose qui nous coûte très cher.
Une question de ressenti plus qu'une réalité.
Absolument pas. On le ressent pas du tout, on voit pas de migrants et au quotidien, ça n'a rien changé.
Confie Julie Tosselini, une commerçante.
Prochain arrêt, Menton-Garavan.
Menton-Garavan, la première gare en territoire français. Le chat de l'aiguille pour les réfugiés en route pour la France ou les pays du Nord. Un groupe de 8 CRS dans leur uniforme bleu foncé pénètre dans le train. L'arrêt est très long pour permettre de contrôler les passagers et la moindre cachette possible.
Et donc ils feront descendre évidemment les noirs. Ils ne demandent pas les papiers des blancs, ils ne vérifient pas, ils regardent même, font un petit peu d'attention à l'allure aussi. Donc c'est complètement au faciès et à l'allure des personnes. Quoi.
Et c'est quelque chose d'inacceptable selon Martine Landry d'Amnesty International. Mais les prolongations multiples de l'état d'urgence à cause des attentats terroristes rendent tout cela possible. Cette fois, le contrôle ne donnera rien, aucun suspect n'a été découvert. Pourtant, lorsque je suis monté dans le train, quelques minutes plus tôt à Vintimille, à la frontière italienne, de nombreux Africains erraient autour de la gare. Certains tenteront sans doute leur chance de nuit. Mais ceux qui seront pris à Menton en situation irrégulière seront renvoyés de l'autre côté de la frontière. En France, les services sont meilleurs qu'en Italie. Et moi, je cherche le meilleur. J'aime la France. Ici, je peux étudier à l'université. En Italie, c'est impossible. Mohamed Ibrahim Amir est venu du Soudan, comme son compagnon Tijan Abdourahim Moussa. Ils ont réussi à passer en empruntant la difficile route de montagne qui franchit la vallée de la Roya.
The first time, I'm just taking my food, my water, all my baggage, and climb the mountain for 3 days. I'm searching.
À sa troisième tentative, il a erré pendant 3 jours dans la montagne avec quelques vivres de l'eau et ses bagages. Heureusement, il n'a rencontré ni militaires ni policiers. Tijan Abdourahim Moussa atterrit dans le camp de Cédric Héroux, situé à flanc de montagne près de Brel-sur-Roya.
Une fois qu'ils arrivent ici, je prends leur nom, on a une liste qu'on communique à la gendarmerie et à la préfecture en disant que c'est des demandeurs d'asile Donc avec ça, avec cette liste de déclarations, ils sont protégés pour ne pas être conduits en Italie.
Héroux est un militant trentenaire. Il vit de la vente de sa production d'œufs et d'olives. Pour l'heure, il attend de comparaître en appel devant la justice pour avoir transporté dans sa voiture des réfugiés à Rome près de la frontière et pour les avoir accueillis chez lui. Au début, il n'y en avait que quelques-uns. À l'heure actuelle, c'est un véritable camp que lui et d'autres habitants de la vallée de la Roya ont installé sur ses terres. Mohamed et Tijane sont deux parmi cette vingtaine de Noirs africains qui se partagent les tentes, les caravanes, la cuisine, les toilettes et les machines à laver. La justice a contraint le préfet des Alpes-Maritimes à autoriser les demandes d'asile, mais à Nice uniquement, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Seuls quelques migrants y sont parvenus sans se faire arrêter par la police. Et en dehors de celui installé par Héro, il n'y a pratiquement pas d'autres camps d'accueil. Chaque jour, plus d'une centaine de migrants tentent de passer la frontière, sur les toits des trains, par les tunnels autoroutiers ou à travers la montagne. Beaucoup d'entre eux viennent d'anciennes colonies françaises ou veulent aller chez des parents installés dans d'autres pays d'Europe.
C'est pas avec le nouveau gouvernement que ça va changer, c'est avec les actions des citoyens que ça va changer. Et c'est avec la politique, la vraie politique, la politique de terrain. Et il faut que on voit, il y a eu, on a fait les records d'abstention depuis 50 ans, je crois. Là, les gens n'ont plus confiance en la politique.
Pour les uns, les politiques font trop peu contre l'immigration. Pour d'autres, comme Cédric Héroux et ses amis de l'organisation Roya Citoyenne, il faut faire plus pour les réfugiés. En avril, ils ont appelé au gouvernement pour plus d'humanité.
Deux exemples où une partie de la population locale se mobilise pour les nouveaux arrivants. Mais ça n'est pas le cas partout. À Dresde, dans l'ex-RDA, nous suivons Sébastien Baer dans le cortège de Pegida, le mouvement anti-islamique, devenu aussi l'ennemi juré des médias. Anne Wright, de Deutschland Radio, s'est rendue quant à elle dans la localité de Schirmeck, en Alsace, pour ce même constat. Populisme et information font rarement bon ménage.
Depuis le camion transformé en tribune, Lutz Bachmann, le fondateur de Pegida, harangue la foule, 2000 personnes massées sur la place du centre-ville sous le soleil brûlant. Au micro, Bachmann, barbe et t-shirt blanc, s'en prend aux réfugiés, à la Lügenpresse, la presse mensongère. Parmi les manifestants, beaucoup d'habitués comme Wolfgang, 64 ans.
Depuis deux ans, je fais 60 km tous les lundis pour venir à Dresde. Nous devons lutter et nous allons triompher. Nous sommes là pour empêcher l'islamisation. Tous les jours, on entend ce qui se passe en France, à Londres. On ne veut pas de ça chez nous. J'ai travaillé pendant 42 ans sur les chantiers comme maçon. Je touche 740 euros de retraite par mois. Vous trouvez ça normal ? Eux, ils débarquent ici. Et ils ont plus d'argent que moi. On nous ment sur la guerre en Syrie. En réalité, elle est terminée. Il n'y a plus de guerre. C'est la paix là-bas. Dehors les réfugiés.
Juliane, vous faites partie du conseil de réfugiés de Saxe. Vous venez en aide à tous ceux que Wolfgang, qu'on vient d'entendre, déteste. Ça vous inspire quoi, ces propos ?
Le problème, c'est que j'entends des phrases comme ça depuis plus que deux ans. Et ils répètent tous les trucs qu'ils disent tous les lundis sur Pegida, contre Angela Merkel notamment. Les médias, ouais, Lügenpresse, ça se répète toujours. Et la peur de l'islam, mais sans donner des raisons en fait, sans donner des explications. Quand tu les demandes comment ça a changé leur vie, ils ne peuvent même pas répondre en fait. Ouais.
Alors là, il y a Pegida, des centaines de personnes devant nous, mais pas uniquement. Hein. Il y a un mouvement de résistance qui a une vingtaine de mètres avec des banderoles.
Mais on voit, je ne sais pas, une vingtaine de personnes ou plus.
Et effectivement, les rangs de la contre-manifestation sont bien clairsemés. Derrière une grande banderole, Mélanie, 45 ans, le visage caché derrière de larges lunettes de soleil, vient dénoncer les contre-vérités qu'elle entend chaque semaine dans la bouche des leaders de Pegida.
Ils disent par exemple qu'en Érythrée, la vie est formidable, ou qu'il n'y a pas la guerre en Syrie, et même que tous les musulmans sont des terroristes en puissance. La foule qui écoute ça et qui y croit, elle est comme hypnotisée. Pegida n'aime pas les journaux qui sont critiques à son égard. Les journalistes se font parfois agresser, ils sont menacés, attaqués même, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je résiste depuis presque trois ans.
Parmi les médias, la cible numéro 1 de Pegida est le Sächsische Zeitung, dont la rédaction est installée à Dresde. Le journaliste Alexander Schneider est un habitué des manifestations du lundi soir. Depuis la première, le 20 octobre 2014, il n'en a raté quasiment aucune.
Nous venons toujours ici pour voir comment ça se passe, quelle est l'ambiance. Ils me connaissent, bien sûr. Parfois, ils citent mon nom à la tribune, parfois je me fais siffler, c'est vraiment difficile. Et on a établi une règle, on vient toujours à deux ici, minimum. Pour le cas où on serait pris à partie par un manifestant de Pegida ou par quelqu'un d'autre. Pegida est un diffuseur de fausses informations. Pegida joue sur les émotions, sur les dangers de l'islam, comme aujourd'hui encore. Et ça marche.
Dans son bureau de Leipzig, à une heure de route de là, Lutz Helm traque les fausses informations et les rumeurs qui circulent sur Internet. Il a fondé Oxmap il y a un peu plus d'un an.
Tout ça n'est pas nouveau. Le débat est apparu au moment du conflit en Ukraine. Des chaînes de télévision ont reconnu qu'elles avaient commis des erreurs en diffusant des reportages qui étaient parfois très orientés. Des gens sont donc devenus critiques à l'égard des médias et ont pris d'autres sources d'information pour argent comptant. Ils se réfèrent à des sources, parfois douteuses, sur Internet ou aux leaders de mouvements comme Pegida à Dresde.
Pegida comme source d'information unique, c'est effectivement le choix fait par Dieter, un ouvrier métallurgiste à la retraite de 74 ans.
J'ai arrêté de lire les médias parce qu'ils travestissent tout, ils manipulent la réalité. Si tu leur dis quelque chose, ils écrivent, ils racontent le contraire. Je ne gobe jamais ce qu'on nous raconte.
Comment vous informez-vous, Dieter ?
Moi, sur Pegida, j'écoute ce qu'ils disent. Comme ça, on sait tout ce qui se passe. Mon opinion, c'est 100% la même que la leur.
Schirmeck se lève tôt, ses jours de marché dans cette petite commune de 2400 habitants en Alsace. Les commerçants sont en train de monter leurs étals, le boulanger a vendu ses premiers croissants chauds et la maison de la presse est, elle aussi, déjà ouverte.
Bonjour.
Oui, ceci.
Mais il y a peu de monde et ceux qui viennent s'intéressent plus aux jeux à gratter qu'aux journaux et l'actualité, raconte le propriétaire Jean-Paul Pépin.
Les personnes âgées achètent encore le journal, hein. Mais les jeunes, c'est plus leur souci avec leur téléphone portable, Internet et tout.
Cependant, le commerçant n'observe pas seulement que les moyens de s'informer ont changé, il a aussi l'impression que souvent, l'intérêt pour l'information n'existe même pas.
Quand il y a des trucs sales qui se traitent au gouvernement, si les gens voulaient vraiment connaître ce qui se passe, ils m'en achèteraient beaucoup et là on n'en voit pas beaucoup, donc ils ne s'intéressent pas.
Comme le constate Jean-Paul Pépin, l'intérêt pour l'actualité est en déclin. C'est ce que pointe aussi l'enquête de l'Institut Comptard pour le quotidien La Croix. Et ce déclin va de pair avec une défiance croissante envers les médias. Près de 7 personnes sur 10 estiment que les journalistes ne sont pas indépendants. C'est ce que pense Laetitia également. La jeune femme est venue pour faire ses courses au marché avec son amie. Elle lit rarement le journal, dit-elle, et explique pourquoi.
Je pense qu'il y a des lobbying entre la politique et certains journalistes. Enfin, voilà, on sait que...
Et ces journalistes, ajoute-t-elle, essaient d'influencer les gens, par exemple dans leur choix lors de l'élection présidentielle. Son ami Brahim hoche la tête.
Ouais, c'était un peu de la manipulation, quoi.
Voilà, c'était plus un choix national, c'était un choix des journalistes qui ont orienté les votes.
Orienté vers Emmanuel Macron, précise-t-elle. C'est la raison pour laquelle Sylvain a voté Front National, pour s'opposer à ce qu'il appelle le système. Et le marchand de vêtements va encore plus loin que le couple.
Vous savez quoi, les médias, c'est une conspiration. C'est des confréries. C'est eux qui décideront toujours.
Bref.
De toute façon, les médias appartiennent aux gens qui ont de l'argent.
Christian Bach connaît bien ce genre de reproches. Le journaliste travaille pour les dernières nouvelles d'Alsace depuis 29 ans. Nous le retrouvons dans son bureau de Strasbourg, à 50 km de Schirmeck.
Le reproche qu'on nous fait, c'est de trop être dans la France qui réussit et de la France qui est aux manettes, donc avec des liens avec le pouvoir politique. Et ces reproches viennent souvent de gens qui eux-mêmes se situent dans la France qui perd.
En charge du numérique au sein de la rédaction à Strasbourg, il est directement confronté à ces reproches sur les réseaux sociaux. Des reproches qui sont parfois exprimés avec ardeur et parfois également un peu calomnieux. Mais le journaliste dit quand même...
On ne peut pas répondre à cette critique sur les journalistes en disant « c'est pas vrai, les journalistes sont honnêtes ». Non. Pour moi, la défiance à l'égard des médias est inscrite dans le système maintenant. Et chacun doit répondre de ce qu'il fait.
Même si le problème est devenu encore plus complexe depuis que les médias font face au phénomène de fake news ou des faits alternatifs qui circulent sur les réseaux sociaux ou sont parfois aussi lancés par des politiciens. Christian Barr se tourne vers son ordinateur et ouvre la page Facebook du journal.
La question pour nous, c'est est-ce qu'il faut démentir une fausse information qui circule sur les réseaux ? Est-ce que démentir une fausse information, c'est pas l'accréditer ?
Et peut-on parvenir à convaincre quelqu'un comme Sylvain, qui s'informe exclusivement sur les réseaux sociaux? C'est peu probable. Mais Christian Barr est prêt à amorcer le dialogue avec les autres.
Le défi pour nous, c'est d'apporter la preuve qu'on ne mérite pas cette méfiance.
L'identité, qu'est-ce que l'identité allemande, française? Qu'est-ce que l'identité de ceux qui s'installent dans nos pays après un long parcours? De part et d'autre du Rhin, des mouvements politiques attisent ces interrogations pour en tirer bénéfice. Lise Joly nous conduira à Cologne, ville à très forte communauté turque. Avant cela, direction Marseille. Vera Laudan, de la Westdeutsche Rundfunk, a choisi la ville française cosmopolite par essence pour interroger cette notion de l'identité.
Merci. Je suis une journaliste allemande.
À l'heure de l'apéro, au café, dans un quartier populaire de Marseille.
Messieurs, la dame, elle a des questions à vous poser, si vous voulez.
Samuel, le cordonnier, Jamel, le vendeur de voitures, Yacine, l'employé, ainsi que le sociologue Philippe Pujol, sont accoudés au comptoir. J'aborde avec eux la question de l'identité nationale, dont on a tant parlé les semaines passées.
Identité, c'est-à-dire, moi-même, je suis originaire du Liban. Je suis, disons, arrivé en France en 76. J'ai quitté le pays pendant la guerre et tout. C'est un pays que je respecte. J'ai une double nationalité franco-libanais, mais pour moi, la France, je me tuerais pour la France. Je vois pas en quoi prêcher l'identité.
Je ne peux que me sentir identifié. Après, il y a des gens qui me font sentir que je suis pas français. Enfin, dans leur tête, moi, je suis né en France. Je travaille en France. Je paye des impôts. Ça fait presque 20 ans. Et voilà, c'est ça ma vie, ça, être français, être le peuple.
Jamel lève les yeux de son journal. Pour lui, l'identité...
C'est une chose qui pue, c'est nauséabond. On n'en a qu'une d'identité, l'identité humaine.
Philippe Pujol, sociologue, journaliste et auteur de plusieurs livres sur Marseille, intervient.
Les partis xénophobes, comme le Front National, sont des partis qui utilisent énormément ces notions d'identité très mouvantes et c'est utilisé à des moments de terreur, entre guillemets, comme les moments des attentats, où là, d'un seul coup, on nous fait ressurgir l'identité. Donc, on construit une identité dont on a besoin politiquement à un moment donné pour dénoncer quelque chose et on espère rassembler tous les frustrés et les gens qui ont peur.
Et ce sont surtout les jeunes que le Front National attire. Parmi les moins de 35 ans, c'est le parti qui séduit le plus. Surprenant. Je me rends donc au siège du Front National à Marseille.
Je m'appelle Hubert. J'ai 22 ans, je suis étudiant en droit à Aix-en-Provence.
Devant le café qui jouxte les locaux, un jeune homme mince, en veste sombre, très poli, il a bien appris le programme de Marine Le Pen.
Je crois au fait qu'on puisse assimiler des personnes immigrées étrangères par l'éducation à la communauté nationale pour qu'elles puissent être fières de leur pays d'accueil, mais qu'elles vivent selon les règles du pays d'accueil et pas selon les règles du pays d'origine. C'est pas xénophobe. Pour moi, l'identité française, c'est ça, c'est ce que Marine Le Pen a défendu pendant toute la campagne.
Il s'est engagé il y a 2 ans chez les jeunesses du Front National. Ses phrases sont tellement rodées que ça en fait presque peur. Mais je ne comprends toujours pas ce que représente l'identité pour lui.
Liberté, égalité, fraternité. Mais libre, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut dans le pays. Fraternité, ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir tout le monde dans le pays non plus.
Quant à l'égalité, il a tout simplement oublié.
Moi, j'ai peur qu'une autre culture vienne s'imposer à Marseille. Voilà, pour moi, il n'y a pas une culture qui doit se substituer à la culture française, provençale, marseillaise. Voilà.
Est-ce qu'il a peur que Marseille, que la France ne s'islamise ?
Moi, j'emploierai pas ce mot parce que ça fait peur aux gens.
Hubert choisit bien ses mots pour surtout ne pas effrayer. Il a très bien intégré la stratégie de dédiabolisation. Et pour lui, c'est même plus qu'une stratégie. Il est devenu passionné, il a trouvé une famille. Retour au café. Jamel est toujours là. Je lui raconte ma rencontre avec Hubert. Et ça ne le rassure pas.
J'arrête pas de dire aux gens, dans tous les villages de France, il y a des monuments aux morts. Allez voir les noms qu'il y a dessus. Ces jeunes, ils sont morts avec une idéologie qu'on retrouve maintenant avec le Front National. Les vieux de 70 ans, 80 ans, eux peuvent se rappeler. Mais les jeunes, ça me fait très peur. Ils ne voyaient pas que l'histoire, elle se répète. L'absence de mémoire, c'est ça qui nous tue.
Cologne, deuxième ville turque d'Allemagne, où il y a 2 ans, à la Saint-Sylvestre, des femmes se sont fait agresser, place de la cathédrale. Pourtant, le club de foot turc du quartier de Deutz demeure le symbole de la société multiculturelle. 30 nationalités différentes s'y côtoient. Et le débat sur la Leitkultur, la culture de référence lancée par le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière, ne semble pas être parvenu jusqu'ici. Sandra, une Allemande blonde et trentenaire, a amené son fils à l'entraînement.
La culture de référence, j'ai du mal à comprendre ce que ça signifie. La ponctualité, l'ordre, oui, on peut dire que c'est typiquement allemand.
Le manifeste en 10 points du ministre pour définir ce que sont les valeurs allemandes semble bien loin de ses électeurs qui s'apprêtent à voter. Franz et Wolfgang, tous deux allemands, sont clairs. La société multiculturelle n'a pas échoué, comme l'avait dit Merkel, elle est toujours là.
Je suis allemand. Je pense que l'islam peut s'intégrer, mais ça ne doit pas se faire de façon forcée. Celui qui veut s'intégrer doit accepter la culture allemande. Si je vivais en Turquie, j'apprendrais le turc. Mais la société multiculturelle existe toujours. Nous sommes tolérants, nous, les Allemands.
Pour moi, ce n'est pas un problème. Jamais je n'exigerai des tests de nationalité de qui que ce soit.
Dans ce club, beaucoup de mères turques, évidemment. Bergul est arrivée en Allemagne à 5 ans. Elle est aujourd'hui allemande.
Être allemand, ça signifie participer aux décisions. Pour moi, ça signifie aussi que mon mari a obtenu son permis de travail et sa carte de séjour définitive. Mais en fin de compte, je reste une étrangère malgré tout. J'ai un passeport allemand, mais j'ai les cheveux noirs. C'est comme ça, on ne sera jamais vraiment allemand.
Mustapha, le président du club, lui, est né à Cologne. Il en parle même le dialecte.
Je suis un Turc fier de vivre en Allemagne, dans la société allemande. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je suis aussi citoyen allemand et je ne peux plus les séparer, l'Allemagne et la Turquie. Elles sont devenues inséparables pour nous. Oui, je me sens intégré ici. Il y a cette discipline allemande, tout ce que nous prenons de ce pays et qui nous convient parfaitement. Et puis, cette décontraction à la turque, tout ça nous rassemble et ça nous rend vraiment forts.
Pourtant, la société multiculturelle n'est pas un modèle parfait. Selon Bergul, elle est loin de séduire les nouveaux arrivants.
C'est un échec parce que les nouvelles générations se mettent davantage à l'écart, je trouve. Il y a de plus en plus de jeunes gens qui se referment sur eux. Est-ce que ça vient d'un côté ? Est-ce que ça vient de l'autre ? On n'en sait vraiment rien, mais on constate cette exclusion.
L'assimilation fait peur à ces jeunes. Ils le savent, ils n'auront jamais la double nationalité et ne veulent pas non plus renier leurs origines, comme Tamesh, jeune père de 25 ans.
L'intégration, on aurait dû y songer bien avant. Ceux qui s'inquiètent de ça aujourd'hui doivent se demander ce qu'ils ont fait de travers autrefois. Je pense qu'on n'a pas donné assez à la communauté turque le sentiment d'appartenance à ce pays. Cela dit, en tant qu'étranger, si on oublie d'où on vient, qui on est et quelle est notre culture, alors c'est de l'assimilation. Et il faut faire attention à ne pas franchir cette frontière-là.
Mais à défaut de la double nationalité, on peut au moins profiter de cette double culture que Mustapha a dans ses gènes.
Ce qui me plaît ici, c'est aussi dans le domaine politique, l'état de droit, l'unité, la droiture, ça me plaît.
Les éléments subjectifs ne sont pas les seuls à chambouler nos certitudes. Dans le domaine du travail et de l'emploi, par exemple, que nous prépare le numérique, la robotisation ? De quel prix devrons-nous payer la mondialisation ? En France, au bout d'une ligne de métro entièrement automatisée, Burkhard Birke a rencontré des franciliens très inquiets. En Allemagne, Delphine Simon s'est penchée sur un rêve envolé, celui de la ville de Bitterfeld, l'une des capitales de la chimie du temps de la RDA.
Il n'y a pas grand-chose pour les jeunes ici. Deux ou trois activités, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est désert. Les jeunes sont tous partis. C'est un peu mort.
Steffi habite dans un quartier de préfabriqués. À 55 ans, au chômage, elle gagne 1 euro de l'heure. À Bitterfeld, on espérait beaucoup de l'industrie du solaire grâce à la PME Q-Cells, devenue star mondiale du photovoltaïque. Mais la vague des panneaux chinois à prix cassé a tout emporté, regrette le maire de la ville, Armin Schenk.
Pour beaucoup de gens ici, la faillite et la fermeture du photovoltaïque ont été une énorme déception. Le secteur payait d'excellents salaires. Le site principal de l'entreprise était à Bitterfeld. La direction siégeait à Bitterfeld. On espérait donc des rentrées financières importantes pour les prochains budgets de la ville. Et la déception a été d'autant plus forte que l'on avait rêvé d'un développement, mais alors formidable, pour la région tout entière.
Devant la mairie en briques rouges, c'est jour de marché. Cet ouvrier spécialisé à la retraite n'a pas à se plaindre, mais il va tout de même voter pour l'AFD, le pendant allemand du Front National.
On produisait des tubes en acier très spécialisés. Pendant les 10 ans qui ont suivi la chute du mur, on a eu plein de travail. Mais après, on a été liquidés. Les politiques nous ont lâchés, économiquement aussi. Les gens d'en haut nous ont éliminés, sans pitié. Moi, j'ai la chance d'être retraité et je m'en sors avec ma retraite. J'ai beaucoup cotisé, même du temps de la RDA. Je suis bien content de ne pas mourir de faim.
Tout n'est pas si noir à Bitterfeld. Des emplois, il y en a, rappelle Uwe Holtz, le directeur du musée local de l'industrie.
Il y a des géants mondiaux ici. Bayer, par exemple. Quand vous prenez une aspirine, elle vient de Bitterfeld. Toute l'aspirine consommée en Europe est fabriquée ici, dans l'une des usines les plus modernes du monde.
Sauf que ces emplois très qualifiés, tous n'en profitent pas, s'indigne l'ancien ouvrier à la retraite.
On a créé plein d'emplois ici, dans la chimie et dans d'autres secteurs. Il y a une multitude de petites entreprises. Mais ces PME vivotent et les gens sont payés à l'heure. Ils sont tellement peu payés qu'ils ne peuvent pas vivre avec leur salaire. Ils ont besoin des allocations. C'est fou de voir ça en Allemagne au XXIe siècle.
C'est pour du travail qu'Uwe Holtz, le directeur du musée, est venu de l'Ouest il y a 25 ans. Mais les jeunes, eux, ne veulent pas rester.
Une de mes filles est étudiante à Stuttgart. L'autre vient de passer son bac et il est presque certain qu'elle ne restera pas ici. On gagne mieux sa vie à l'Ouest. Dans le secteur de l'Internet et du numérique, vous pouvez gagner 25 à 30% de plus qu'ici.
Les températures aujourd'hui, dans le schwülen, 25 à 27 grad, im Harz, zwischen 18 et 24 grad.
Uwe est tout fier de nous montrer le nouveau lac, le Goitschel, avec sa plage, son club de voile et ses restaurants, la même où se trouvait avant l'ancienne mine de charbon.
Ce sont les maisons qui flottent, les appartements pour les vacances.
S'il y a 25 ans, j'avais dit que ça ressemblerait à ça, on m'aurait dit...
Tu es fou, complètement. Oh, comme c'est bien ici, comme c'est beau.
Des espaces verts que Burkhard, militant de l'AFD, craint, lui, de voir disparaître sous le béton. Sur son affiche, des gratte-ciel comme à Manhattan.
Ici, c'est une réserve naturelle et pourtant on n'arrête pas de construire, uniquement pour faire de l'argent. C'est pour ça qu'on est en colère, parce que tout est décidé au-dessus de nos têtes.
Malgré ce mécontentement, il n'est pas sûr que l'AFD fasse le plein des voix, selon lui, à cause des divisions internes. Beaucoup d'électeurs pourraient s'en détourner.
sur sa tablette numérique, Serge Marangui, le responsable d'équipe, vérifie une fois de plus que tous les composants sont bien en place sur le châssis du scooter. Un petit chariot entièrement automatisé transporte le tout jusqu'au poste suivant où des ouvriers effectuent le montage des roues et d'autres pièces avec un bras robotisé.
Vraiment, là on porte, y a des roues qui font 15 kilos, on devrait en porter entre 300 et 400 par jour en flux continu. Là on n'en porte pas une, c'est le robot qui vient la porter, on n'a plus qu'à mettre les vis.
C'est une imprimante 3D qui est chargée de fabriquer les pièces manquantes ou défectueuses. Bienvenue dans le monde du travail 4.0, la quatrième révolution industrielle.
On parle de 15% de gain de productivité, mais on parle aussi d'un gain très fort de flexibilité. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant sur une même ligne de produire des produits qui sont customisés pour chacun d'entre nous.
Olivier Scalabre est directeur associé au sein du Boston Consulting Group. C'est à Saclay, à une heure de voiture au sud de Paris, qu'est installé ICO, un véritable laboratoire de recherche sur les technologies d'avenir. Ici, on fabrique des scooters, mais aussi des bonbons grâce à des traitements de données et un mode de commande électronique intégré. Comme beaucoup d'autres Parisiens, Johan monte tous les matins dans un métro sans conducteur. Il pourrait bien faire de même très bientôt dans un TGV entièrement automatisé. Dans le métro de Paris, après les lignes 14 et 1, c'est au tour de la ligne 4 à passer en mode de conduite automatique.
Donc là, ils vont faire sur la ligne 4, et la ligne 4, c'est 244 conducteurs, qui en fait, il n'y aura plus. Donc, dans la totalité, on perd 460 postes de conducteurs.
Arnaud Moquelet et ses camarades de la CGT ne veulent pas arrêter le progrès, ils veulent le définir. À la RATP, les conducteurs sont répartis sur les autres lignes pour augmenter les fréquences. Un des cas rares où la modernisation ne s'est pas faite directement au détriment des employés.
Il y a effectivement les salariés d'Amazon, il y a les salariés des centres d'appel, il y a les salariés qui voient des restructurations chez eux dans les usines parce qu'on a robotisé sans leur demander leur avis. Tout ce salariat-là, effectivement, vote pour renverser la table, pour dire on n'a pas de solution, on n'a pas de perspective, on n'a pas de choses à vous proposer, mais on en a marre.
Pour Mohamed Oussedik, membre de la direction de la CGT, c'est un problème pour les politiques. Le défi principal consiste à créer des emplois et à partager de façon équitable les gains de productivité générés par la numérisation, aussi et surtout au bénéfice des plus pauvres.
Pendant des années, on a concentré les populations pauvres, dont une partie d'origine immigrée, dans les mêmes quartiers, dans les cités des banlieues de Paris, de Lyon, etc., de Marseille. Ça, c'est un vrai problème et ça, il faudra très 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 longtemps pour résoudre ça.
C'est l'opinion de Patrice Collen. Cet ancien journaliste fait référence à des gens comme Régis, le jeune noir que je rencontre par hasard au supermarché. Régis travaille à l'une des dernières caisses pas encore automatisées, là où le client n'est pas obligé de scanner et de payer tout seul ses achats.
En fait, il y aura juste la technologie qui sera là pour nous remplacer et du coup, ça, on perdra des emplois et c'est vrai que ce ne sera pas fameux pour nous les jeunes parce que c'est un peu un emploi facile pour nous, donc ouais, c'est vrai que ce sera compliqué.
Le défi pour le gouvernement et pas seulement en France est clair. Il s'agit de créer de l'emploi et de le partager de façon équitable. Car aujourd'hui, la très grande majorité des jeunes n'a plus confiance dans ses dirigeants.
Si j'ai plus confiance, je sais pas. J'attends de voir ce qui va se passer avec le nouveau président. Sinon, on basculera sur, l'extrême droite.
Que ce soit en France ou en Allemagne, les mêmes inquiétudes précèdent ou accompagnent l'arrivée de nouvelles populations et de nouvelles technologies. Mais on assiste aussi à un autre phénomène commun, une nouvelle définition du déclassement. Le phénomène touche aujourd'hui des catégories sociales que l'on pensait à l'abri. Deux exemples, les retraités en Allemagne et les agriculteurs en France. Reportage de Vera Laudan de Deutschland Radio en terre occitane et de Lise Joly dans la région de Cologne.
Le son, c'est vrai, c'est magique.
Dans la cave de Bernard, au milieu des vignes dans le Minervois.
Vous voulez déguster quelque chose ? Goûter un vin ?
Bernard fait du vin depuis 35 ans déjà. À 56 ans, il est la sixième génération à exercer le métier du vigneron.
On a ça dans le sang, c'est dans l'âme. Et quand on n'a pas de vigne, on est nu, on se sent sans rien. Quoi. Donc voilà, il nous faut ça. Quoi. Les arômes de fruits blancs, de pêche.
Bernard est un passionné. Il s'enflamme autant pour le vin que pour défendre son métier.
Ils auraient dû taper du poing sur la table.
Il parle des hommes politiques qui l'ont laissé tomber. Depuis des années, il lutte pour son existence. Depuis 5 ans, il ne livre plus la CAF coopérative et s'est converti au bio. Mais la peur est toujours là. Pour lui, le problème, c'est la mondialisation et la concurrence des vins espagnols qui passent massivement la frontière française sans aucun contrôle.
Je suis furieux contre l'injustice qu'il y a au niveau des importations qui ne sont pas traitées de la même manière que nos produits à nous. Ça nous oblige parfois à vendre nos produits à perte. Donc, ce n'est pas normal, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça pendant une éternité.
Il voudrait une réglementation européenne juste et un contrôle aux frontières, mais il se sent impuissant.
On a beau dire, on a beau crier, on a beau faire des manifestations, mais ça ne suffit pas, ça n'apporte rien. Le seul pouvoir qu'on ait aujourd'hui, c'est le bulletin dans l'urne. Voilà.
Quand il était jeune, Bernard a été socialiste, puis il a voté pour la droite. Déçu par Sarkozy, déçu par Hollande, aujourd'hui sa patience est à bout.
Moi je tire la sonnette d'alarme, j'ai dit stop, et j'ai voté l'extrême.
Pascal, lui aussi vigneron dans les villages voisins, nous invite à déjeuner.
Bonjour.
Salut. Oui, non, vous non plus.
J'ai un problème, j'ai le radis un peu dur.
Pascal est écologiste et de gauche. Ils ont le même humour, le même amour pour le vin, mais aussi les mêmes critiques envers l'Europe, l'arrogance des élites et la même peur du déclassement.
Il y a quelque chose depuis plusieurs siècles qui vraiment systématiquement nous met en marge de la société, au fin fond de la société française en tout cas. Il reste un mépris, un déclassement citoyen du paysan, un déclassement, on est dans le déclassement.
Cette discrimination, Pascal et Bernard la vivent surtout quand les inspecteurs de l'Union européenne sont là.
On a des gens froids comme du marbre, qui viennent nous regarder les comptes, qui posent des questions, qui cherchent partout ce qu'on aurait pu tricher. Ce côté tatillon, déshumanisé, hors sol, cynique de tous ces contrôleurs, ou européens ou français, c'est insupportable. Nous, on n'est pas anti-allemand. Hein. On n'est pas dans l'anti-allemand, dans l'anti-Europe. On est dans l'anti-connerie. Voilà.
Et puis voilà.
Deux hommes à une même table. L'un vote pour l'extrême droite, l'autre est de gauche. Et pourtant, ensemble, ils trinquent avec moi. Ensemble, ils partagent les côtelettes d'agneau cuites sur le même grill. Ils arrivent malgré tout à s'entendre. C'est étonnant.
Moi, c'est le respect total. Et Pascal, on est complètement opposés, quoi, on va dire. À chacun ses ambitions, chacun ses envies, et c'est la démocratie.
Moi, je suis absolument pas inquiet du vote Front National dans les campagnes. Mon inquiétude, c'est que les gouvernants n'entendent rien. Ça, c'est mon inquiétude. La colère est l'expression de ras-le-bol, faut bien le dire. Et c'est trop facile pour les gouvernants de considérer que les gens sont des fascistes parce qu'ils votent Front National. Ce qu'ils nous disent, ces gens, c'est « voyez le réel ». Voilà, voyez le réel.
Pascal regarde Bernard et cherche son approbation.
Il ne faut pas qu'on nous fasse le coup de nous diviser les uns contre les autres. Il ne faut pas qu'on nous manipule dans la division, dans la division du peuple. Quoi.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Le problème en Allemagne, il n'y a pas assez de jeunes actifs et trop de retraités. En 1995, on comptait encore 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. En 2030, il pourrait n'en rester que 2.
Un pauvre en Allemagne vit avec moins de 917 euros par mois et 15% des Allemands vivent sous ce seuil de pauvreté. Ils sont chômeurs, parents isolés et parmi eux, de plus en plus de retraités. Annette est de ceux pour qui la retraite ne suffit pas pour vivre. Je la rencontre à Cologne, à la Tastinghaus, où elle vient chercher des produits frais distribués par une association caritative.
Je suis maintenant à la retraite et je gagne à la fin de ma vie aussi peu que si je n'avais jamais travaillé. La retraite est si minuscule que j'ai dû demander le minimum vieillesse. 400 euros. Je ne vais jamais au spectacle, je ne vais plus au cinéma, plus jamais au restaurant, je ne pars plus en vacances. Il est impossible de vivre à Cologne avec si peu.
Annette vient ici tous les vendredis après-midi et elle n'est pas la seule. Une cinquantaine de personnes font comme elle. Elles viennent chercher de la nourriture et c'est Helmut qui supervise la distribution des paniers.
La plupart sont des retraités de plus de 60 ans. Ils bénéficient de l'aide sociale de Cologne. Les gens ont de toutes petites retraites, de tout petits revenus. Pour eux, c'est primordial d'obtenir ici des produits gratuits.
Alors aujourd'hui, on a du lait frais, des saucisses, du fromage, des fruits et des légumes. Tout ça va être distribué. C'est fourni par la Banque alimentaire de Cologne. Ce sont les magasins qui nous donnent ça gratuitement.
Blandine, une Russe allemande, ancienne ingénieure des mines, en profite chaque semaine. Elle vient surtout pour le pain frais.
Du pain de la boulangerie. Le pain des grandes surfaces, souvent, ça n'est pas très bon. J'aime tellement vos baguettes françaises.
Beaucoup de femmes aux carrières incomplètes et particulières, comme celle de Blandine, qui est arrivée sur le tard en Allemagne.
On ne se permet pas d'aller au restaurant, mais ici, on peut s'inscrire sur une liste d'activités culturelles. Et souvent, je reçois des tickets gratuits pour des concerts à la Philharmonie ou pour le théâtre. On arrive à mettre un peu d'argent de côté. On essaie de gagner 3 sous par-ci, par-là, au noir, bien sûr.
Car même ici, dans le bassin industriel de la Ruhr, ces retraités n'ont pas été épargnés par les réformes Schröder que Sabine Graf, responsable du DGB, pointe du doigt.
Dans la réforme Schröder de 2010, le niveau des retraites a été plafonné. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler 45 ans et une fois à la retraite, on ne touchera que 50% à peu près de son dernier salaire. Et si on regarde l'horizon 2030, alors ce sera plutôt 40% et ça ne sera pas suffisant pour vivre.
Et le pire est à venir, selon Sabine Graf, car là encore, ces réformes Schröder, avec leurs mini-jobs, auront des conséquences. Mini-jobs aujourd'hui, retraités pauvres demain.
Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur cinq est susceptible de toucher une retraite insuffisante. Et il y a le problème des mini-jobs. Les gens gagnent de moins en moins parce que leur emploi n'est pas protégé par une convention collective. Der Rentner, der in der Wohnung friert, die Mutter, die Würde verliert, das Kind, das sich in der Schule schämt, der Vater, der sich zu Tode grämt. Armut hat viele Gesichter, nur eines nicht.
C'est avec la chanson de Lisa Fitz, Les visages de la misère, que nous refermons cette première émission franco-allemande de reportage. Merci à nos camarades Vera Laudan, Anne Wright et Burkhard Birke d'y avoir apporté leur curiosité ainsi que leur remarquable maîtrise de notre langue. Merci à Lise Joly, Delphine Simon, Sébastien Baer et Yann Gallic pour leur regard côté allemand. Stéphane Combe, Zora Ben Smiley, Romain Couturier ont apporté leur concours à la fabrication de cette émission. Mixage Pierre Monteil et c'est Anne Lureau qui aura réalisé Interception cette semaine. Pour la dernière fois, à la rentrée, Anne Lureau accompagnera Philippe Bertrand pour de nouvelles aventures radiophoniques et c'est peu de dire qu'Interception lui doit beaucoup. À la semaine prochaine, nous entendrons la première de notre série de rediffusions estivales.